Bonsoir à tous, épisode un petit peu spécial que je vous propose ce soir parce que déjà ce sont les 8 ans de Transistor et qu'on n'a pas tous les jours 8 ans et qu'on doit le dire le plus souvent possible. Et ensuite parce que cet épisode hors série de Parce que la science n'attend pas fait suite à la journée du 2 décembre qui est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Et c'est donc une occasion de faire un point concernant les avancées en matière de lutte contre cette maladie. On commence par quelques chiffres. Depuis sa découverte en 1983, qui a été récompensée en 2008 par le prix Nobel de médecine, on estime que le virus du sida a infecté près de 75 millions de personnes et causé 35 millions de décès. Aujourd'hui, le continent le plus touché par cette maladie est l'Afrique, avec près de 70% des cas rapportés, devant l'Asie du Sud et du Sud-Est, qui regroupent près de 15% des cas recensés. Alors ce qu'on appelle le sida, ou syndrome de l'immunodéficience acquise, c'est une maladie causée par un virus qu'on appelle le VIH. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Alors, depuis longtemps, on ne sait pas trop, les biologistes ne savent pas trop si on doit considérer les virus comme des êtres vivants ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les virus sont des organismes délimités par une membrane qui se présente comme une double couche de protéines. À l'intérieur se trouvent plusieurs choses, d'autres protéines et le matériel génétique du virus sous forme d'ARN. Alors, c'est quoi l'ARN ? Dans toutes les cellules de notre organisme se trouve de l'ADN, qui est le porteur de notre information génétique via des appariements de nucléotides. Or, pour pouvoir permettre aux cellules de vivre, cette information doit être véhiculée de l'ADN vers l'ensemble de la cellule, et au lieu de faire voyager l'ADN directement, la nature a choisi de le transcrire en une autre molécule appelée ARN, par des protéines appelées ARN polymérase. Cet ARN est ensuite traduit en protéines par les ribosomes, et ce sont ces protéines qui voyagent dans la cellule. Dans le cas du virus, l'information n'est pas stockée sous forme d'ADN, mais d'ARN. Le problème pour un virus est qu'il ne peut pas survivre seul. En effet, il ne possède pas les molécules capables de dupliquer son information génétique et ne peut donc pas se diviser seul. Mais il utilise un autre moyen. Au lieu de le faire lui-même, il infecte une cellule qui va se charger de ce travail. Alors comment fonctionne le mécanisme de multiplication du virus ? Ce dernier infecte une cellule hôte en la pénétrant. Pour cela, il fait fusionner sa membrane avec celle de la cellule et tous les composants présents dans sa membrane sont libérés dans le corps cellulaire. Grâce à une protéine appelée reverse transcriptase, son ARN est converti en ADN qui va s'insérer dans l'ADN de la cellule grâce à une autre protéine appelée intégrase. Une fois inséré, ce morceau d'ADN est totalement indifférenciable des autres, si bien que la cellule ne se doute pas que son information génétique a été piratée. Elle continue donc à se diviser en répliquant son ADN. Quand elle le traduit en ARN, la partie insérée par le virus est transcrite elle aussi, et les protéines associées sont produites, un nouveau virus est assemblé, puis libéré hors de la cellule. Le VIH ne déroge pas à la règle, c'est également de cette manière qu'il se multiplie dans l'organisme. Cependant, sa structure est un petit peu spéciale. En effet, au sein même de sa membrane, il possède deux capsides, qui sont des sortes de coques qui protègent son information génétique. À la surface de sa membrane se trouvent également deux protéines jouant un rôle crucial lors de l'infection des cellules de l'organisme par le virus, appelées GP120 et GP41. En particulier, GP120 se lie spécifiquement à la protéine CD4 portée par les lymphocytes T4 qui régulent notre système immunitaire. Ceci signifie que le VIH ne peut infecter que des lymphocytes T4 et aucune autre cellule pour le moment. Mais si le virus VIH agit comme les autres virus, pourquoi est-ce qu'il est si difficile à soigner ? Il existe plusieurs raisons à cela. La première, c'est que le sida se développe très différemment des autres maladies. En effet, dans le cas général, le taux de virus dans l'organisme, appelé charge virale, augmente fortement, puis la réponse du système immunitaire arrive et fait lentement diminuer la charge virale jusqu'à la rendre nulle. Pour le VIH, l'histoire est différente. Le développement de la maladie se fait en trois phases. Lors de la première, la primo-infection, la charge virale augmente, puis diminue brusquement jusqu'à se stabiliser autour d'une valeur relative faible. Vient ensuite une longue phase asymptomatique où le système immunitaire tente de contrôler l'évolution de la maladie. Mais si vous avez bonne mémoire, j'ai dit que le virus n'a s'attaqué qu'aux lymphocytes T4, qui sont les garants de l'efficacité de notre système immunitaire. Ce dernier est donc affaibli et n'arrive pas à endiguer l'infection, la charge virale augmente progressivement. Arrive enfin la troisième phase, la maladie du sida à proprement parler, lors de laquelle la charge virale augmente très fortement jusqu'à déborder le système immunitaire. Indépendamment de ce développement en trois phases, la maladie du sida n'est globalement pas ordinaire. En effet, on ne meurt pas du sida directement, mais notre système immunitaire est tellement affaibli qu'il ne peut plus lutter contre les plus petits virus rencontrés, et c'est cela qui finit par causer le décès. Une autre raison pour laquelle on traite très mal le virus du sida est parce qu'il possède une très forte variabilité, ce qui veut dire que toutes les molécules qu'il compose ne sont pas stables et changent dans le temps. On dit que le virus mute. En effet, il existe plusieurs causes à ces changements. La première se situe lors de la transcription de l'ARN du virus en ADN à l'arrivée du virus dans la cellule. La protéine qui se charge de ce travail, la reverse transcriptase, est très loin d'être infaillible. Pour un virus dont le matériel génétique est codé sur près de 9000 paires de bases, cela correspond à une à deux mutations en moyenne par cycle de réplication qui dure environ 6 heures. Une autre cause de cette forte variabilité est que le taux de renouvellement du virus est très élevé, vu que la durée de demi-vie du VIH est d'environ 48 heures, ce qui donne des centaines de millions de nouveaux virus synthétisés chaque jour. Le nombre de virus mutants, appelés variants, n'est pas le même lors de l'évolution de la maladie. Il augmente grandement lors de la phase asymptomatique, avant de se stabiliser après le débordement du système immunitaire, lorsque seuls les variants les plus efficaces ont été sélectionnés. Oui, mais pourquoi cette variabilité empêche-t-elle la création d'un vaccin ? Il faut avant tout comprendre le mode de fonctionnement d'un vaccin. Quand une personne est vaccinée, on lui injecte dans le sang des souches de virus passives, ce qui veut dire qu'elles sont inactives et ne possèdent plus d'activité virale. La réaction immunitaire se met en place et l'organisme produit alors des lymphocytes mémoire et des anticorps. Les lymphocytes mémoire sont des cellules capables de reconnaître un agent infectieux en particulier parmi tous ceux qui circulent dans notre sang. Les anticorps sont des protéines capables de reconnaître d'autres protéines à la surface des cellules et des virus et de s'y fixer. En s'accrochant ainsi à un grand nombre de sites de fixation, ils créent un réseau qui sera avalé par un lymphocyte et détruit. Les anticorps sont également présents dans notre sang en permanence, mais leur production est fortement augmentée lorsque la réaction immunitaire est enclenchée. Mais si la variabilité du virus est trop grande, les sites de fixation des anticorps sont sans cesse différents, ce qui rend les anticorps inefficaces contre ce virus. Et si finalement à la fois les lymphocytes mémoire et les anticorps sont inefficaces, le vaccin sert à rien. Quels sont alors les traitements existants contre cette maladie ? Si les anticorps et les lymphocytes sont inefficaces face au virus VIH, les scientifiques ont alors pensé que le meilleur moyen de lutter contre lui était d'empêcher sa prolifération. Ils ont alors mis au point une batterie de produits permettant d'inhiber chacune des étapes mises en jeu lors du cycle de réplication du virus. Les voies les plus efficaces ont été d'empêcher la fixation du virus sur la membrane du lymphocyte T4, de bloquer le processus de reverse transcriptase, d'empêcher l'insertion de l'ADN viral dans celui de la cellule et enfin de gêner l'assemblage des protéines pour reformer les nouveaux virus. Malheureusement, chacune de ces méthodes ne donne pas de résultats satisfaisants si elle est utilisée seule. On administre donc aux patients un cocktail de médicaments qui agit sur tous les fronts cités précédemment à la fois, ce sont ce qu'on appelle les trithérapies. Cette méthode de soins peut paraître très brutale, et elle l'est, mais elle a permis, dès sa mise en place en 1996 aux États-Unis, de faire baisser drastiquement le nombre de nouveaux cas de sida. Malheureusement, ces traitements sont chers et difficiles à produire en grande quantité. De plus, les trithérapies sont très lourdes à supporter pour le patient et ne sont efficaces que si elles sont administrées au patient dans les premiers jours suivant l'infection, ce qui est peu probable dans les pays les plus touchés par la maladie. Devant l'urgence de la situation, les laboratoires pharmaceutiques du monde entier se sont lancés à la recherche du vaccin qui permettrait de redonner un espoir de guérison aux malades. En 2016, les entreprises Sanofi et GSK ont annoncé avoir mis au point en laboratoire un traitement anti-VIH très efficace nommé HVTN-702. Le produit est rentré en phase d'essai clinique et le plus grand essai clinique portant sur le VIH a été lancé fin 2016. Mais d'ores et déjà, certains laboratoires ont annoncé avoir trouvé une manière d'améliorer la lutte contre la maladie. Ainsi, le laboratoire Janssen a-t-il annoncé en juillet de cette année des données très prometteuses sur l'utilisation d'un vaccin. Même si l'équipe qui a annoncé ces résultats reste consciente de la difficulté de développer un vaccin contre le VIH, elle souligne que même obtenir une efficacité d'environ 50% aurait un impact majeur sur la pandémie. D'ici là, les campagnes de sensibilisation continuent et tous les scientifiques le disent, la meilleure manière d'éviter toute contamination, c'est de se protéger.
Merci beaucoup Pierre, c'était Parce que la science n'attend pas, votre émission quasi hebdomadaire d'actualité scientifique. C'est l'heure du Flash Info.
Alors, les fans sont dans tous leurs états. Certains parlent d'état de choc, d'autres se préparent au raz-de-marée de ces musiques qui ne manquera pas d'arriver dans tous les médias. Johnny Hallyday est mort cette nuit à l'âge de 74 ans. Pour continuer sur les titres macabres, l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 92 ans. Vendredi, un hommage national lui sera rendu, présidé par Emmanuel Macron, qu'il a lui-même désigné comme le prince des lettres. Le dispositif de régulation des frais de mandat des députés fait grincer des dents à l'Assemblée. L'objectif de transparence et de moralisation de la vie publique est pourtant très en deçà de ce qu'on aurait pu attendre, selon Agnès Roblot-Troisier, la déontologue de l'Assemblée. En Corse, les nationalistes ont remporté haut la main le premier tour des élections territoriales malgré une forte abstention. Si ce vote se confirme au second tour, le gouvernement devra répondre aux attentes du parti P à Corsica qui réclame l'ouverture de discussions pour une plus grande autonomie de l'île. Plusieurs ONG ont décidé de porter plainte contre les agences réglementaires européennes ayant évalué la toxicité du glyphosate. Si les États membres ont adopté la proposition de la Commission européenne de prolonger pour 5 ans la licence de l'herbicide, les tensions sur la question n'ont pas fini de se faire ressentir.
L'international maintenant, nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord mardi dernier. Selon Kim Jong-un, les missiles en question seraient susceptibles de toucher n'importe quel site du territoire continental des États-Unis, ce dont doutent les experts occidentaux. En réaction, Séoul et Washington ont donné le coup d'envoi lundi de leur plus important exercice aérien, manœuvre qualifiée par le régime coréen de provocation totale. 230 avions et plusieurs dizaines de milliers de soldats ont été déployés pendant 5 jours par la Corée du Nord, la Corée du Sud, et les États-Unis. Première visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Alger, un séjour qui ne devrait pas excéder la journée. Le président français a rencontré Abdelaziz Bouteflika tout à l'heure. Bouteflika, 80 ans, très affaibli, mais que certaines rumeurs annoncent candidat à sa réélection pour un cinquième mandat. Macron ne devrait pas s'engager sur le terrain des crimes contre l'humanité qu'il avait abordé en février. En revanche, il a annoncé qu'il était prêt à ce que soient rendus les crânes d'insurgés algériens tués au XIXe siècle par les colonisateurs français et qui se trouvent actuellement au Musée de l'Homme. Enfin, Donald Trump a annoncé sa volonté de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Il en a informé hier par téléphone le président palestinien Mahmoud Abbas ainsi que le roi de Jordanie Abdallah. Cette décision aurait une très grande portée symbolique puisqu'elle reviendrait à reconnaître de fait Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël au détriment de la Palestine, 5 ans après la guerre des Six Jours qui avait vu Israël conquérir par la force la vieille ville, lieu où se concentrent les lieux saints.
Merci François-René.